Kézéko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
Les mathématiques. Si ce seul mot a pu donner froid dans le dos à certains, leur rappelant ainsi de mauvais souvenirs du collège, il peut également illuminer le regard d'autres. En effet, cette discipline très controversée auprès des élèves est la vocation de certains. Des chercheurs, aujourd'hui, ont décidé de passer leur vie auprès du monde des chiffres qui les animent. Nous avons d'ailleurs l'honneur aujourd'hui de recevoir une célèbre mathématicienne française à la tête de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, récompensée de plusieurs distinctions, telles que la médaille d'argent du CNRS, le prix Sophie Germain, ou encore le titre de chevalière de l'Ordre National du Mérite, pour n'en citer que quelques-unes. Bref, je ne vous en dis pas plus et je lui laisse la parole, elle saura mieux vous en parler que moi. Bonjour Madame Gallagher.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, nous parler de votre parcours, de votre statut actuellement et également de votre thème de recherche ?
Oui, alors je suis Isabelle Gallagher, je suis professeure de mathématiques à l'ENS Paris et à l'Université Paris-Cité et je dirige la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Et mon parcours brièvement, donc j'ai fait une thèse préparatoire, puis l'école polytechnique, puis une thèse en maths. J'ai été chargée de recherche au CNRS quelques années et ensuite professeure des universités. Et ma thématique de recherche, c'est ce qu'on appelle l'analyse des équations aux dérivées partielles, c'est-à-dire, de manière un peu plus concrète, regarder des équations qui sont proposées par exemple la physique ou la biologie et d'autres domaines des sciences, et les étudier d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire essayer de démontrer qu'il y a des solutions, qu'elles sont uniques, essayer de les décrire. Et voilà, c'est l'essentiel de mes recherches porte là-dessus.
Et justement, quand je me suis renseignée sur vos recherches, je me suis rendu compte que vous faites vraiment un lien entre la physique et les mathématiques. Et justement, comment vous faites pour traiter des problèmes physiques à l'aide d'outils mathématiques ?
Alors en fait, la physique est souvent écrite en langage mathématique. Après, les physiciens partent des équations et s'en servent pour avancer. Donc ils font deux choses, les physiciens. Ils écrivent des équations, ils modélisent. Donc c'est eux qui inventent le plus souvent les équations. Et ensuite, ils s'en servent. Et nous partons de leur langage physique. On essaie parfois de le traduire en langage mathématique, parce que c'est pas tout à fait parfois la même chose. Et après, on répond ou pas d'ailleurs à leurs questions, qui sont ou pas des interrogations qu'ils ont d'ailleurs, du caractère bien posé des équations. Mais ils ont le même langage essentiellement, même s'il y a un peu d'adaptation.
D'accord, donc déjà en fait, initialement, il y a un lien entre ces deux disciplines et c'est pas totalement indépendant.
Tout à fait, ah oui, enfin, nous, concrètement, comment on fait, ça peut être soit simplement en lisant des livres de physique, qui sont écrits dans un langage. De physiciens, mais avec des équations qui sont complètement dans notre langage à nous. Et les questions qui se posent ou qu'elles se posent sont vraiment écrites dans ces livres, dans certains livres. Et puis, ça nous arrive aussi simplement de rencontrer des physiciens, des physiciennes et essayer de répondre à leurs questions.
Et justement, en fait, ce lien entre physique et mathématiques, je le retrouve aussi dans le sixième problème de Hilbert, qui est un problème mathématique ouvert qui vous fascine. Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous pencher là-dessus et si vous avez réussi finalement à faire des ébauches de réponses ou à apporter une solution à ce problème ?
Alors, à vrai dire, comme souvent dans les questions qu'on se pose en maths, c'est un peu par hasard que moi je suis tombée sur cette question. Au départ, ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'était avec Laure Saint-Raymond et Benjamin Texier. C'est travailler sur un sujet qui a d'apparence très très différent, qui est la turbulence d'ondes, dont je ne parlerai pas ici, mais qui est liée à la turbulence des fluides. Donc il y avait quand même un lien avec la physique et des fluides, mais pas du tout avec le problème de Hilbert. Et on s'est aperçu, en essayant de résoudre ce problème, que les méthodes qu'on utilisait étaient très très proches des méthodes utilisées par Lanford pour tenter de résoudre le sixième problème de Hilbert. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans ce sujet et qu'on a essayé d'avancer. Et la question, c'était quelles sont les avancées qu'on a pu faire. Donc, j'imagine que c'était une clarification de la preuve de Lanford, qui était pas complètement par endroit, un petit peu compliqué à suivre, ou pas tout à fait complète. Donc ça a été un premier travail avec Laure et Benjamin Texier. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et on voyait bien que c'était pas du tout abouti, on n'arrive pas à répondre à Hilbert, on s'est vraiment focalisé sur la dérivation de l'équation de Boltzmann pour la comprendre mieux. Et on a réussi, enfin la seule chose un petit peu positive qu'on ait faite peut-être ces dernières années, c'est d'accomplir le programme de Hilbert complètement dans des cadres très simplifiés de mécanique linéaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans des cadres linéaires, on arrive à récupérer effectivement la mécanique des fluides à partir des particules.
Donc vous avez aussi évoqué une collaboration avec Laure Saint-Raymond et vous en avez fait une autre en fait sur la dynamique des océans, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du coup de ce
ce travail de recherche et finalement de l'expérience qui en ressort. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir finalement sur la dynamique des océans?
Alors oui, effectivement, donc Laure, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis de très nombreuses années. Quasiment après notre thèse, on a commencé à discuter ensemble et se mettre à travailler ensemble parce qu'on avait des sujets d'intérêt et de recherche communs. Donc sur ce problème de dynamique des océans, donc ça, le sujet de la mécanique des fluides nous intéressait déjà depuis un petit moment et on avait vu, on avait vu dans des livres et après des discussions avec des physiciens et physiciennes, qu'un sujet d'étude était la présence d'espèces de zones un petit peu différentes près de l'équateur où les océans, enfin des ondes, on avait l'impression qu'elles étaient piégées à cet endroit-là et physiquement c'était pas très très clair de savoir pourquoi. Et donc on a travaillé à cette question avec deux collègues aussi, Thierry Paul et Christophe Chevry, et on a essentiellement réussi, dans un cadre bien sûr très simplifié, à expliquer un petit peu ces zones de piégeage d'ondes. C'était assez intéressant, c'était lié très fortement à la rotation de la Terre en fait.
D'accord, donc finalement c'était vraiment une superbe expérience et vous avez dit que vous avez collaboré ensemble notamment parce que vos thèmes de recherche finalement se ressemblaient. Et j'ai vu que votre sujet de thèse, ça portait en quelque sorte sur ça parce que c'était sur, si je me rappelle bien, la dynamique des fluides. Et on voit bien finalement que les travaux que vous avez aujourd'hui découlent finalement de la thèse que vous avez choisie. Comment vous avez réussi à saisir en quelque sorte cette vocation, ce sujet qui vous a amené à tant de recherches aujourd'hui?
Alors le sujet, c'était parce qu'au départ, quand j'étais en école d'ingénieur, les maths m'intéressaient moins en fait, et plutôt la météo, je trouvais ça assez fascinant la météo. Mais après avoir fait un stage dans un labo de météorologie, je me suis aperçue que finalement ce qui m'intéressait dans la météo, c'était plus les équations de la météo que la météo elle-même. Et j'avais un enseignant, Jean-Yves Chemin, qui lui, il se trouve, travaillait beaucoup, c'était vraiment son sujet de recherche à l'époque, sur la mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes. Donc c'est lui qui m'a proposé un sujet. Et bon, c'est un sujet qui est passionnant, il reste tellement de choses à faire même aujourd'hui que j'ai continué tout en faisant des excursions un peu à droite à gauche, mais toujours un petit peu sur ce fil conducteur.
Mais du coup, finalement, vous avez fait des recherches qui sont quand même liées entre elles, mais qui concernent plein de domaines d'études, hein. C'est vraiment fascinant. Et justement, les applications doivent forcément être nombreuses. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous choisissez votre domaine d'application ou pas? Et quel est votre domaine d'application mais le plus?
Alors, application, c'est un mot un peu fort, parce que je pense que ce que j'ai fait jusqu'ici, je ne suis pas sûre que ça fascine vraiment les météorologues ni les physiciens. Je suis sûre que non, même, les physiciennes. Mais ce qui m'intéresse quand même toujours, hein, c'est d'essayer de... Enfin, presque toujours. J'ai un autre sujet de recherche purement maths fondamentales, dont je ne parlerai pas ici, qui pour le coup, d'application co-sein, pour l'instant, en tout cas, pour moi, en tout cas, des mathématiques. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est regarder les problèmes physiques et essayer de les comprendre d'un point de vue mathématique. Ça m'a l'air... pour moi, c'est extrêmement important de mettre des fondements très, très solides sur les équations des physiciens, qu'ils ont bien eu raison d'utiliser. Ils sont toujours très en avance sur les mathématiciens et les mathématiciennes, sur leur compréhension des choses. Mais c'est important, pour moi, en tout cas, de cadrer. Donc, mon application, c'est vraiment essayer de stabiliser, en quelque sorte, les équations de la physique.
D'accord. Bah écoutez, très beau parcours en tant que chercheuse. Et est-ce que vous auriez un conseil par hasard à donner aux jeunes filles qui souhaitent se lancer dans la recherche?
Alors, je n'ai pas réfléchi à la question, mais le conseil serait peut-être de ne pas se laisser impressionner par quelques figures qui sont parfois un petit peu envahissantes ou écrasantes dans le milieu, même que ce soit le milieu de la recherche ou même dans le milieu scolaire, hein, ou universitaire. Il faut avoir confiance en soi. On n'est pas obligé d'être un as, un crack en terminale ou après, pour devenir quelqu'un de tout à fait très bon ou très bonne en mathématiques. C'est pas le sujet, on n'est pas obligé d'être quelqu'un qui résout tous les problèmes le plus vite possible. Moi, je fais plein d'erreurs quand je raisonne, je me trompe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut avoir confiance et savoir aussi que c'est un métier de collaboration. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, je travaille toujours avec des gens. C'est des grandes histoires, même d'amitié en même temps, et de confiance réciproque. Oser dire des bêtises devant des gens, c'est vraiment pas... faut jamais se censurer. Voilà. Ce que je dirais, c'est avoir confiance en soi, même si parfois c'est difficile, les résultats n'arrivent pas, que ce soit des résultats scolaires ou mathématiques après, hein, c'est pas toujours, tout n'est pas facile. Mais il faut aimer, évidemment. Si on n'aime pas, ça va être difficile, parce que c'est un métier pas facile, comme beaucoup de métiers. L'aimer et avoir confiance en soi et ne pas se laisser trop impressionner par quelques figures parfois un petit peu écrasantes.
Bah écoutez, c'est sur ces beaux mots qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir accepté l'intervention sur le podcast Kezako. C'était très intéressant finalement d'avoir les mots d'un expert, d'une chercheuse.
Et d'ailleurs, justement, cette experte, cette chercheuse, j'ai pu la rencontrer à l'Institut Henri Poincaré parce que j'assistais à une masterclass lycéenne qui a été organisée par l'association Sephora Berébi, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation et pour cette proposition d'interview. Et je souhaitais d'ailleurs vous en parler un peu plus parce qu'en fait, c'est une association qui pourrait en intéresser plusieurs. Car en effet, la masterclass à laquelle j'ai assisté, elle avait plusieurs activités, toujours en compagnie de chercheuses tout aussi variées les unes que les autres. On a pu avoir notamment droit à des tables rondes avec des chercheuses, on a pu avoir droit à des ateliers, à des speed dating avec des chercheuses, des expertes, et c'était vraiment très enrichissant. Et finalement, pour y participer, c'est assez simple, comme vous et moi, si vous aimez les sciences, vous pouvez y participer, il suffit juste de s'inscrire sur leur site. Ils proposent plusieurs événements finalement de tout type tout au long de l'année, et c'est gratuit pour la plupart. Et en fait, pour vous parler un peu plus de l'association, en fait l'association Sephora Berébi, c'est une association sans but lucratif qui a été créée à l'image de Sephora, donc la fille des fondateurs, et elle promeut des actions dans le domaine dans des domaines finalement qui tenaient à cœur à Sephora, et ça peut être autant dans les sciences que dans l'humanitaire, etc., parce qu'ils sont aussi très engagés dans ces thématiques là et ils ont plusieurs missions, donc ça peut être au niveau de l'éducation, comme la masterclass qui visait à former les jeunes filles. Ça peut être également au niveau de la diffusion, donc là c'est plutôt le côté vulgarisation scientifique qu'on retrouve également chez Kizako, donc notamment de la, finalement de la démocratisation des sciences, du savoir, mais également une mission qu'ils mènent pour la lutte en faveur de l'égalité des droits, le droit des chances, le droit des devoirs et des responsabilités, notamment entre les hommes et les femmes. Ils participent également à l'aide aux personnes en difficulté, donc atteintes de handicap, etc. Donc on voit bien finalement que c'est une association assez riche, assez engagée, qui mène finalement plusieurs luttes, plusieurs actions. Si vous souhaitez les aider, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur leur site. Il y a plein de moyens de s'engager en étant bénévole ou autre. Et si vous souhaitez tout simplement participer à des ateliers qu'ils mènent en Ile-de-France ou autre, comme la masterclass à laquelle j'ai assisté et à laquelle nombreuses d'entre vous y ont assisté, j'ai reçu des messages sur Instagram, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc rendez-vous sur leur site, donc sephoraberébi.org. Et bien, inscrivez-vous, tentez votre chance, et si vous êtes assez motivé, que vous faites preuve de volonté, normalement, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas prise. Bien voilà, j'espère en tout cas que ce partage a pu en aider plusieurs, qu'il a pu vous faire découvrir une nouvelle initiative qui va pouvoir vous aider en assistant à de nombreuses masterclass. D'ailleurs, si vous comptez y participer, faites-moi signe et dites-le-moi, donnez-moi un retour, dites-moi ce que vous en pensez pour que je puisse en savoir plus sur votre retour d'expérience. Bien écoutez, je vous retiens pas plus, ça fait c'est longtemps que je vous parle. Voilà, on a pu notamment discuter avec Isabelle Gallagher, j'ai pu vous parler de l'association Sephora Berébi. Donc c'est vrai que ça a été un épisode de podcast finalement assez riche, assez varié. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse. C'était Sarah de Kizako. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.